Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon appétit. Une fois n'est pas coutume, on vous accueille avec quelques sandwichs et autres gâteaux. Voilà, vous avez pu constater, vous pouvez vous en douter, ces quelques mets qui nous sont servis aujourd'hui sont le fruit de personnes de l'Alternative étudiante durable, une association d'étudiants de Neuchâtel dont on parlera beaucoup ce soir. Et je crois qu'ils ont fait une récolte d'invendus auprès de boulangeries de la locale. Voilà. Donc merci à eux, à elles, qui ont fait cet effort de nous amener ces quelque chose à grignoter. Parce qu'on prolonge comme ça un peu le festin neuchâtelois à notre manière. Depuis quelques années, l'université de Neuchâtel s'est engagée en faveur du développement durable. Elle encourage beaucoup d'initiatives dans le domaine des déplacements, dans le domaine des déchets, de la récolte des déchets, de l'écologie au bureau, des économies d'énergie, etc. Et elle encourage aussi les initiatives étudiantes qui vont dans le même sens, dont justement ces récoltes de nourriture et ces distributions de nourriture dont il sera question ici ce soir sous le titre « Gaspiller pour mieux partager ». Alors qui dit partage, dit expérience communautaire, ça rappelle des choses, non pas d'aujourd'hui, mais peut-être d'il y a une quarantaine d'années déjà. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ces initiatives étudiantes de partage nous ont inspiré le thème de ce soir, qui consiste à croiser les regards entre deux générations d'étudiants, ceux d'aujourd'hui, dont vous voyez le fruit du travail aujourd'hui, et ceux d'hier, ou peut-être même d'avant-hier pour certains, qui nous ont fait l'honneur de venir ici et de raconter leurs souvenirs d'étudiants de l'époque, des années post-68. Avec comme point de départ cette réalité frappante d'aujourd'hui qui nous concerne tous, l'incroyable gaspillage des aliments à travers le monde. Quelques chiffres en Suisse, d'abord pour lancer la discussion. 2 millions de tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque année, dont près de la moitié par les ménages, 45% pour être plus précis, selon une étude menée en 2012. Cela représente presque un repas complet par personne et par jour. Donc, contre toute attente, c'est bien le consommateur final, c'est vous et moi qui sommes responsables de ce gaspillage, d'une grande partie de ce gaspillage. Suivent les industriels avec tout de même 30%, les producteurs avec 13%, et puis la restauration et le commerce de détail, 5% chacun, et enfin les grossistes pour à peine 2%. Avec ces chiffres, on comprend mieux l'urgence qu'il y a à prendre des mesures pour remédier à ce triste constat. Et pour évoquer cette question, voici quatre intervenantes et intervenants que j'invite d'abord, comme c'est de coutume dans nos cafés scientifiques, à se présenter brièvement dans un premier temps, à commencer peut-être par M. Théobus.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de me donner la parole en premier comme doyen, j'imagine. Et elle se défend. Moi, je suis chez moi dans cette université, puisque j'ai passé 4 ans. Et je vous renvoie à ce qui est nommé ou ce qui est énuméré ici. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la FEN lunaise de l'époque. Alors, je prendrai juste deux exemples. La FEN était très corporatiste, très centrée sur les étudiants. Ça débordait rarement, comme vous le faites actuellement. Mais il y a quand même eu une initiative qui a produit des fruits, puis que je constate maintenant, c'est que nous avions lancé les associations d'étudiants par faculté. Alors je vois que ça dure toujours, et puis ça me fait plaisir. La deuxième chose à mentionner, c'était qu'au niveau national, en 1966, quand j'étais président de l'UNES, c'était une grande enquête menée par le recteur de l'Université de Neuchâtel, André Labarthe, qui a, au fond, jeté les bases de ce qui est devenu un système fédéral d'université avec un fort subventionnement. Cela n'existait pas auparavant, au début des années 60, où tout au moins dans une mesure, comme ça a été le cas par la suite. Et puis après, ben, j'ai pas mal travaillé à l'étranger, dans 9 ans en Amérique latine, mais ça, c'est une autre histoire.
Oh, bon, on y reviendra certainement. À côté de vous, Madame Aline Katsefis.
Bonsoir. Alors, moi, je représente l'Alternative étudiante durable, dont plusieurs membres sont présents ce soir ici. Et donc, étudiante en master à l'Université de Neuchâtel, j'ai rencontré le mouvement qui était déjà en place quand je suis arrivée. Et donc, c'est un mouvement étudiant qui est basé sur la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et bon, on en reparlera pendant cette soirée. Voilà.
Merci beaucoup. Oscar Morand.
Bonsoir. Alors, Oscar Morand, je suis étudiant en deuxième année en bachelor en système naturel à l'Université de Neuchâtel. Et je suis membre du GRAMU, du groupe d'aménagement de l'université. Donc on est une association basée à la faculté des sciences à l'UniMile. Et on a proposé des projets pour aménager les espaces verts de l'université. Donc une première action, ça a été l'implémentation d'une haie vive. On a enlevé des haies de buis pour mettre une haie vive composée d'espèces locales et variées. On a eu une deuxième action qui a été la création d'un jardin de permaculture. Donc ça s'est fait en octobre passé. On a créé un jardin de 180 mètres carrés à la faculté des sciences. Et on a aussi organisé l'année passée, en collaboration avec l'APEL, l'Association de permaculture estudiantine de Lausanne, un cycle de 4 conférences sur la permaculture.
Voilà. On aura l'occasion de revenir sur la définition de la permaculture tout à l'heure. Madame Stelly-Wolf.
Alors moi, je suis la 68 arde de service. Et j'ai passé dans cette université brièvement à une époque où tous les fondamentaux étaient remis en cause. Et donc, l'effet que m'a fait l'université, c'est pas tout à fait ce que j'ai pu entendre. Théobus y était avant, et puis mes deux voisins là, ils sont arrivés bien après, et moi j'y étais pendant. Et je me réjouis beaucoup d'entendre un petit peu la présentation de ce qui est souhaité, de cette conception du partage qui est en vigueur actuellement, pour pouvoir un peu vous expliquer comment c'était à l'époque, parce que vraiment les conditions ont changé, et je vais essayer d'être un peu votre mémoire. Parce qu'on oublie, on croit que le monde n'est pas né aujourd'hui, le monde est né, si je vous dis par exemple, en 1968, les femmes n'avaient pas le droit de vote au plan national, tout le monde a oublié ça, mais moi pas. Et donc je me réjouis de pouvoir vous présenter un petit peu comment j'ai vécu 68, quels étaient les enjeux, quel type de partage, il y avait aussi du partage, c'est vrai, mais quel type de partage était envisagé et qu'est-ce que les étudiants de l'époque voulaient faire de l'université.
Parfait, on se réjouit du programme. Alors tout de suite, on va passer au concret et au concret contemporain d'aujourd'hui, l'alternative étudiante durable. Donc je me tourne vers Aline Katsefis et j'aimerais que vous mentionniez brièvement votre philosophie, comment peut-être est né ce mouvement, et puis ces actes qui sont vraiment utiles et pas trop de paroles. Donc merci de parler quand même pour nous expliquer en quoi consistent ces différentes actions que vous menez au niveau de l'AED.
Alors, donc l'alternative étudiante durable, elle a déjà 2 ans. Elle s'est mise en place à l'automne 2012 par d'abord essentiellement un groupe d'étudiants de la faculté d'ethnologie. Mais ça s'est rapidement ouvert après quelques mois à d'autres facultés. Et l'idée principale, c'était de faire, je crois, une action, parce que moi, comme je l'ai dit, je suis venue un peu plus après, de faire d'abord une action pour sensibiliser contre le gaspillage alimentaire. Et le mouvement est parti avec une collaboration avec le Table Suisse. Donc c'est un organisme qui s'occupe, qui a déjà des partenariats avec les grandes surfaces pour récupérer les invendus. et pour redistribuer selon un certain principe qui se rapproche plus du caritatif et avec un souci d'aider les personnes dans le besoin et moins peut-être comme priorité de lutter contre le gaspillage. Alors que ce n'était pas du tout notre idée de départ. Et donc nous, on est parti avec cette association parce que c'était facile de mettre en place tout de suite des distributions d'invendus. Et ça s'est tout, très vite étendu. L'AED a gagné, s'est présenté à la CUS, une proposition de projet de développement durable et a gagné une bourse pour soutenir son projet. Et du coup, là, ça a permis de lancer vraiment l'association. Donc, on a commencé à trouver, à chercher des fournisseurs, que ce soit des maraîchers, que ce soit des agriculteurs directement ou d'autres grandes surfaces, mais ça a moins marché sur ce coup-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir récupérer des invendus, tout ce qu'on pouvait éviter d'aller... de jeter, pour le redistribuer aux étudiants, parce que c'était une initiative estudiantine, mais ce n'était pas forcément réservé aux étudiants. Ce n'était pas non plus avec un critère caritatif derrière, ni avec une sélection de « non, toi, tu as besoin, toi, tu n'as pas besoin ». Donc, c'était vraiment un moyen de montrer aux gens « regardez tout ce qu'on arrive à trouver, tout ce qu'on a évité de jeter ». Et en même temps, d'essayer de sensibiliser les gens sur leur type de consommation. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, ce n'est pas forcément les grandes surfaces qui jettent le plus, parce qu'ils contrôlent assez bien leur stock, c'est un peu leur business, quoi. Mais c'est surtout le consommateur qui a plutôt le gros tiers, voire plus qu'un tiers de responsabilité dans le gaspillage. Du coup, c'était cette idée d'aller vers les gens, principalement jeunes, puisque c'était notre milieu. Mais on a aussi voulu élargir ça en essayant de mettre en place des mouvements à l'extérieur de l'université. Donc, peut-être vous avez déjà vu en ville ces mouvements de disco soup, où on fait aussi des grands repas dans la rue avec des invendus. On les cuisine ensemble, on les redistribue gratuitement et en même temps, on a des panneaux explicatifs sur qu'est-ce que le gaspillage, etc., pour essayer de sensibiliser. Donc voilà, et après, ça s'est vraiment étendu à d'autres choses qui partent plus sur du partage, avec, par exemple, dans cette même idée de lutter contre le gaspillage, mais alors, ce coup-là, pas alimentaire, mais plutôt matériel, où on a mis en place des gratiférias, qui sont des marchés aux puces, mais gratuits. Donc les gens viennent déposer ou prendre des affaires qui sont mises à disposition en ville. Dans la même idée, c'est assez nouveau, ça fait 2-3 mois, on a mis en place des repair cafés, donc pour que les gens puissent, au lieu de jeter leur machine à café ou autre chose, n'importe quel appareil électronique, ou que ce soit des vêtements, apprendre à recoudre, etc. Il y a plusieurs professionnels qui sont présents et qui sont là pour aider à réparer. Et ça s'est étendu aussi à un atelier vélo qui s'est mis en place à l'entrée de l'université. Pareil, dans la même optique, de réparer le vélo au lieu de le jeter, d'essayer de trouver des matériaux de seconde main ou de les recycler pour les utiliser dans la réparation de vélos. Alors voilà, il y a toute cette sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ou matériel, mais aussi essayer de créer des liens entre les commerçants, parce qu'on essaie de collaborer avec eux, ceux qui nous donnent gracieusement leurs invendus, ou aussi avec les étudiants, les impliquer un peu plus. Ce n'est pas seulement donner, mais c'est aussi sensibiliser, mais aussi leur dire « venez aussi récupérer avec nous, c'est sympa ». Et voilà.
Vous avez une idée du nombre de membres que vous avez actuellement ?
Alors là, je me tourne vers notre présidente qui a les comptes en tête.
Environ 25 membres actifs et puis à venir régulièrement à nos distributions. Ça tourne, mais je dirais une cinquantaine. Mais c'est quoi, on a des mailing lists où il y a 500 inscrits, mais pas tout le monde vient. Enfin, voilà.
D'accord. Donc une cinquantaine de membres. Je retiens.
Des ateliers aussi
Alors oui, on a aussi, on essaie de mettre en place des ateliers sur différentes activités ou techniques à échanger et à apprendre aux autres. Et on avait eu la mise en place d'un atelier de fabrication de fromage avec un ami, Roger, qui s'était proposé pendant un week-end ou une journée, je ne me rappelle plus, d'apprendre certaines techniques pour fabriquer soi-même son fromage. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des membres qui veulent rajouter des...
On peut dire aussi que ce n'est pas seulement... ce qu'on met en place, c'est aussi avec beaucoup d'autres associations. Enfin, l'atelier vélo, c'est une association en soi qui a fait ce projet.
Et puis sinon, il y avait aussi les Ripper Café, il y a le Black Office, et puis la CAP qui tiennent beaucoup ce projet. Enfin, et puis il y a aussi les conférences auxquelles on soutient, mais... c'est un réseau d'associations plus qu'une association. Enfin, juste avec pas.
Ouais.
Merci beaucoup de ces précisions. Alors, autre projet estudiantin. On monte sur la colline, hein, parce que là, on était plutôt au bord du lac, avec la faculté de lettres. Et maintenant, sur la colline du Mail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce jardin de permaculture dont on a parlé même dans la presse, il n'y a pas si longtemps?
Alors je vais commencer par inviter les quelques membres du GRAMU présents dans la salle à m'interrompre à tout temps si vous voulez rajouter des détails. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la colline du Mail? On a fait un jardin en octobre. On s'est créé en association dans le but de... Je vais peut-être parler un petit peu de la permaculture d'abord. Je pense que c'est important.
Ouais. Donc, vous êtes là pour ça.
Ouais, je vais essayer de faire court, ça prend du temps généralement la permaculture. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Avant de commencer, je vais vous lire la définition du dictionnaire. C'est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants en préservant les écosystèmes et en répondant aux besoins humains. C'est une définition parmi beaucoup de définitions différentes. En retournant à la base... Le mot permaculture est issu de la contraction du mot permanent et agriculture, donc agriculture permanente. Ça a été développé dans les années 70 par Bill Mullison et David Holmgren autour d'un constat assez simple. C'est que l'agriculture industrielle menace la biodiversité et la fertilité des sols. Donc, il faut créer des systèmes agricoles stables et résilients. C'est comme ça qu'ils sont venus en 1978 à écrire leur premier livre sur la permaculture. Et la permaculture s'inspire de trois domaines. Tout d'abord de la nature, de l'observation vraiment minutieuse des écosystèmes naturels. Elle s'inspire des savoirs traditionnels et aussi des nouvelles technologies appropriées et des avancées scientifiques. Il y a trois éthiques en permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain et partager équitablement. C'est des idées relativement simples, mais très difficiles à mettre en pratique tous les jours. Donc l'objectif de la permaculture, c'est de concevoir. Il y a un élément clé qui est le mot design, c'est la conception d'installations humaines, à la base agricole, dans le but de créer des systèmes agricoles permanents, mais ça s'est très vite décliné dans une véritable culture de la permanence, parce qu'on ne peut pas avoir des systèmes agricoles permanents sans que c'est un impact sur toutes les autres sphères humaines. Donc l'économie, notre manière de vivre, les systèmes de gouvernance. Un exemple, ce serait les mouvements des villes en transition, qui sont issus en fait de la permaculture appliquée à des villes entières, et il y a maintenant plus d'un millier de villes qui s'annoncent comme villes en transition.
Vous avez des exemples de villes, de noms de...
Le meilleur exemple serait Totnesp, c'est où ça a été créé. Et ouais.
C'est où?
C'est en Angleterre.
D'accord.
Donc, c'est donc une méthodologie de conception de système. C'est beaucoup de gros mots en même temps. C'est aussi une philosophie et un mouvement fort de plusieurs millions de personnes maintenant. Et pour faire simple, la permaculture permet un mode de vie qui permet à tout un chacun de créer un mode de vie qui leur correspond en harmonie avec la nature. Alors nous, on s'est créé en association. Quand je suis arrivé à l'université, le GRAMU existait déjà, le groupe d'aménagement de l'université. Je suis arrivé, quelques mois plus tard, il y avait un premier projet qui était cette EVIV. on avait des valeurs éthiques derrière qui étaient vraiment de prendre soin de la terre. On voit qu'il y a un peu une course à la catastrophe permanente, ben depuis que je suis né en tout cas, et qu'on essaye de trouver des solutions. Puis nous, on s'est penché sur l'agriculture. Et on a proposé en octobre donc, un jardin en permaculture qui utilise des techniques pour cultiver la terre, qui soit respectueuse de l'environnement, tout en répondant aux besoins humains. Et puis voilà, c'était quoi la question de base ?
Non, mais c'était ça, c'était d'expliquer ça. En deux mots la permaculture. Est-ce que vous avez déjà, là c'est le printemps qui pointe son nez, vous avez déjà commencé des récoltes ? Il y a quelque chose qui sort ?
On n'a pas des récoltes, c'est encore un peu tôt. Hein. Non. Mais on commence. On a le jardin pour avoir vraiment un espace d'expérimentation concret qu'on propose aussi comme plateforme à l'université pour lancer des études. On a fait une semaine de chantier où il y a eu 70 personnes en tout qui sont venues nous aider de beaucoup milieux différents. Donc autant des universitaires que le voisinage, que le service parc et promenade de la ville de Neuchâtel avec qui on a énormément collaboré. Puis. Donc là, maintenant, on a le jardin, on a aussi fait les conférences, puis on propose des ateliers qui sont ouverts pour les étudiants. Donc on a ce dimanche matin, un cours sur la permaculture qui est gratuit pour les étudiants. Il ne reste plus beaucoup de place s'il y en a qui sont encore intéressés. Et l'après-midi, on se penchera sur la planification des cultures et on lance les premiers semis.
D'accord. Claudine Stelly-Wolf, je me tourne vers vous maintenant. Vous vous êtes présentée comme la mémoire de ces mouvements, de ces idées. Alors vous avez entendu ces deux jeunes qui ont exposé leurs initiatives. Alors vous, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord ? Et puis après, peut-être vous parlerez de ce que vous avez entrepris quand vous aviez leur âge.
En fait, moi, je suis très intéressée par ce qui a été exposé par les deux étudiants actuels. Et je comprends très, très bien ce souci, cette préoccupation, prendre soin de la terre, essayer d'être plus raisonnable dans son fonctionnement, prendre conscience de nos responsabilités, que ce soit sur le plan alimentaire, en ne jetant pas, en partageant mieux, ou sur le plan... la production agricole en défendant une production agricole intégrée et respectueuse du reste du système humain. C'est vrai que ça évoque une immense différence avec ce qui se passait en 1968. Je vais peut-être juste vous situer. Je pense qu'il y a des tas d'endroits du monde qui ressemblent encore largement à ce que je vais vous raconter qu'était le monde en 1968. Et c'est peut-être ça qui est l'endroit où on doit débattre, parce que vous vous occupez de quelque chose sans jamais aller chercher les causes. D'où ça vient? Pourquoi ça se produit? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça s'arrête? Bien sûr, mettre des pansements... des attelles plâtrées ou pas, c'est quelque chose de bien, mais en même temps, vous devez arriver à comprendre que si vous réparez sans arrêt, vous ne changez pas les conditions de production du problème. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous devez réfléchir. J'ai vu que vous aviez levé la main, donc.
Oui. Ouais. On va peut-être finir. Je vous propose juste de finir. Alors, compléter. Enfin, peut-être qu'on va juste pour la clarté de la discussion, on va juste finir le tour de table, puis après on passera, je donnerai la parole à la salle, et puis on reprendra les problèmes un par un. Comme ça. Sinon, on va pas pouvoir entendre tout le monde. Allez-y, madame.
Alors, dans le monde dans lequel je suis née en 1949. À la Chaux-de-Fonds, et je suppose dans pas mal d'endroits du canton. Il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait pas de salle de bain. Les toilettes étaient à l'étage. Les ouvriers avaient des salaires qui leur permettaient juste de vivre. Et puis il y avait une classe qui était riche, beaucoup moins riche que la classe riche du jour, d'aujourd'hui, mais il y avait des écarts entre les populations qui étaient importantes. Sur le plan scolaire, on avait des classes de plus de 30 élèves au collège, à l'école primaire, ça s'appelle autrement maintenant, on est en pleine Armos, mais vous me permettrez de rester dans les systèmes que je connais le mieux. Donc à l'école primaire, on était plus de 30. À l'école secondaire était séparée de la préparation au lycée, c'était toujours des classes de 30. Au lycée, qui s'appelait gymnase à l'époque, il n'y avait quasiment aucun enfant d'ouvrier. Et alors, je ne vous dis pas à l'UNIS qu'il y avait comme mélange social. Il n'y en avait pas. La bourgeoisie avait une école à son service. Et donc, l'université aussi était au service de la bourgeoisie. Il y avait une classe montante qui s'appelle la moyenne bourgeoisie. Moi, j'utilise des mots qui, pour vous, sont sans doute la langue de bois, mais malheureusement, ce n'est pas de la langue de bois, c'est la réalité. Il y avait une classe montante qui s'appelle la moyenne bourgeoisie, dont la caractéristique sociologique est d'avoir, de défendre les valeurs de la bourgeoisie sans en avoir les gains. Donc, si vous voulez, la moyenne, la petite et la moyenne bourgeoisie n'a pas le pouvoir, mais elle défend les valeurs bourgeoises comme si elle l'avait. Et c'est très compliqué parce que cette classe-là est arrivée à l'université. Et ça n'est pas sans incidence sur la manière dont vous regardez le monde. Donc à l'époque, en 1968, on s'est révolté contre le rôle de l'université. Le fait qu'il n'y avait pas d'enfants d'ouvriers, l'université n'était pas ouverte, pas du tout. Et parmi les actions qui ont été entreprises, il y a eu le fait d'écrire « Université Maison Close » devant ce bâtiment, juste là en bas à l'entrée. Université Maison Close, il y avait de la colle qui avait été injectée dans toutes les serrures pour montrer qu'on ne pouvait pas entrer dans cette université comme on aurait dû pouvoir le faire. Parmi les actions qui ont été menées, il y avait des campagnes d'affichage. Il y avait eu des affiches dans toute l'Uni avec une colle qui transformait les affiches en pierre. Donc je ne vous dis pas comment ça a été sympathique à nettoyer ensuite. Et l'idée générale, c'était de montrer que l'université doit fabriquer des gens libres, des penseurs autonomes, doit être ouverte à plusieurs pensées et pas qu'à une seule pensée. Et les mouvements qui sont nés d'ailleurs aux États-Unis, mais qui ont eu lieu partout en Europe et peut-être moins, de manière moins importante en Suisse, mais en Suisse quand même, ont remis en cause les fondamentaux de la société dans laquelle on vivait. Et c'est vrai que c'était beaucoup des gauchistes qui pilotaient ces discours et qui rêvaient d'un monde autre, complètement différent. Pas de l'aménagement, de la révolution. On a vraiment cru qu'on allait faire la révolution, ça n'a pas marché. Ça, c'est vrai, c'est plus compliqué qu'on pensait. Ça a eu comme effet aussi de relire ce qui se passait dans les partis communistes, parce qu'à l'époque, en Union soviétique, il se passait des drôles de choses aussi. Et donc, dans ce mouvement étudiant, il y a aussi eu toute une relecture de ces mouvements de gauche qui avaient eu l'espoir de changer le monde et qui n'y étaient pas arrivés. Et donc, la volonté, c'était cette fois d'y arriver en étant plus critique. Et ce qui était demandé à l'université, c'était de permettre ce mouvement, de permettre une pensée nouvelle et de sortir de son rôle de reproduction d'un système social précis avec une répartition des pouvoirs précise. Et c'était un petit peu le sens de mai 68. Et donc, on partageait, mais pas du tout de la même manière. Les fondamentaux qui ont été remis en cause, c'était la religion, la famille, l'argent, le pouvoir. C'est ça qui a amené les gens à partager puis à créer des autres modes de vie, des communautés où on partageait les conjoints aussi. On voulait plus se marier, enfin, etc. Donc ça, c'est pour vous situer ce que j'ai moi en tête quand je parle de changement et quand je regarde le monde d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est pas la même chose, je ne vous fais pas de reproche. Mais ce qui serait intéressant quand même pour vous, c'est de réfléchir à comment vous pourriez aller un peu plus loin que juste aménager. Ça me gêne, moi, un peu, que vous songiez juste à aménager, alors qu'aujourd'hui, les écarts de richesse ont explosé. Dans ce canton, il y a de plus en plus de pauvres à qui vous rendez service, hein, je ne nie pas. Et il y a de plus en plus de millionnaires aussi. Donc, il y a un problème. Vous ne pouvez pas simplement rester comme ça, à distribuer de la nourriture et à vous dire qu'il faut qu'on cultive plus proprement pour reproduire correctement les conditions de vie de l'humanité. En plus, il y a des tas d'endroits qui n'ont encore absolument pas bénéficié de la richesse qui a été produite et qui sont exploités. Et donc, vous ne pouvez pas introduire vos concepts dans l'espace comme ça.
D'accord.
Alors avant de poursuivre, j'aimerais encore terminer le tour de table en donnant la parole à Théobus, mais je vois que ça chauffe déjà du côté de la salle. Donc, on va garder toutes et tous vos questions. On y revient tout de suite. Mais d'abord, Théobus, voilà, votre...
Je me réjouis de vous entendre, voilà. De vos réactions. Je vais encore mettre du pain sur la planche pour que vous puissiez réagir.
Il y en a déjà sur les tables.
Et remettre en question. Oui, c'est d'accord. Vrai. L'image est propre au figuré.
Oui. Alors moi, que ça vous inspire, ces mouvements, d'abord?
Pour compléter, pour me situer dans ce qu'a dit Mme Stelly-Wolf, je me considère aussi comme membre de la génération de 68. J'étais en mai 68 à Paris. Mais assez rapidement, comme j'avais terminé mes études, je suis parti au niveau international et j'étais en Espagne, non seulement pour apprendre l'espagnol, qui m'a ensuite permis de me déplacer facilement en Amérique latine, mais aussi pour me situer dans la lutte contre le dictateur Franco de l'époque. Et puis, la deuxième chose, dans l'actualité, je suis bénéficiaire, non pas de votre activité, parce que j'habite le Haut, mais d'une autre association qui s'appelle EKIR, Manger Ensemble, et qui tous les jours, ça c'est vraiment une activité permanente et durable depuis 6 ans, tous les jours offre un repas à 7 francs de manière autonome avec uniquement des volontaires. Alors j'y vais une fois par semaine parce que c'est pas... Je ne suis pas dans le besoin, mais ceux qui viennent là, véritablement, ils ont besoin de cette nourriture. Alors, moi, j'avais préparé un autre truc, donc je vais vous le résumer. J'aimerais vous parler du commerce équitable qui touche le système et la décroissance qui remet en question le système. Premièrement, il y était une époque où le tiers-mondisme surfait sur la vague. Je me souviens d'une conférence nationale dans la salle du Conseil national à Berne avec tout ce que la Suisse comptait de spécialistes, d'experts, de militants de haut vol et de militants de base avec des invités de l'étranger. Je cite juste Julius Nyerere, le président de la Tanzanie à l'époque. Et de là sont partis, de cette conférence qui a eu lieu en 1970, différentes initiatives avec des succès divers. L'une d'entre elles, qui était pilotée d'abord par la déclaration de Berne, c'était une campagne pour le café, avec un café équitable, qui venait justement de Tanzanie. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ujamaa, c'était le principe du socialisme africain. Et ensuite, ce mouvement s'est organisé et même institutionnalisé. Je veux parler des magasins du monde. Et justement, l'année dernière, nous avons fêté les 40 ans de magasins du monde. Il y a déjà 13 magasins dans l'arc Béjun ou Jurassien. Et rien que dans cet arc, il y a aussi des dizaines de petites initiatives, de petits projets qui s'y rattachent. À ce propos, est-ce que vous allez régulièrement au magasin du monde? C'est grave. Parce que le magasin du monde, lancé par des gens qui avaient à l'époque votre âge, y ont mis vraiment de l'huile de coude et ont monté tout un réseau. Je signale juste... pour que vous puissiez avoir accès. À Neuchâtel, c'est à la rue du Château. Il y en a à Cernier, à Fleurier, à La Chaux-de-Fonds, au Locle. Peut-être j'en oublie, si vous pouvez ajouter. Il y a aussi des stands, périodiquement. Et pourquoi maintenant, ça marque un peu le pas. L'année dernière, il y a eu un léger fléchissement. C'est parce que, d'une part, notre génération, elle vieillit, elle commence à mourir. Et d'autre part, je pense que c'est un des critères, une des raisons essentielles, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de propagande pour le commerce équitable représenté par les magasins du monde. Si vous comparez ça à des centaines de milliers de pubs qui paraissent pour la Migros, pour la Coop et les autres structures qui vendent l'alimentation, c'est absolument incroyable le déséquilibre qu'il peut y avoir, le même déséquilibre qu'il y a dans les revenus. Mais toujours est-il, après 10 ans de consacrer du temps à ouvrir des magasins, une question s'est posée entre les fondamentalistes et les dogmatiques, ou pardon, et les pragmatiques, pour savoir si nous voulions continuer d'essayer de faire ou d'attirer les gens dans un magasin. Et la décision qui a été prise, c'était de demander aux grandes surfaces de nous ouvrir leurs portes. D'où la naissance du label Max Avelar. Et pour l'histoire, je signale juste en passant que Max Avelar a véritablement existé. C'est le nom d'emprunt qui a été donné par un écrivain hollandais, Edouard Douws Dekker, qui, lui, a été persécuté parce qu'il avait déjà essayé de changer les choses dans la colonie néerlandaise de l'Indonésie, et il a été renvoyé de son poste d'administrateur colonial. Et puis, il a fait ce roman sur le commerce équitable, qui est devenu une sorte de symbole dans beaucoup de pays dans le monde, pas seulement aux Pays-Bas et en Suisse. Alors, à mon avis, le commerce équitable peut et doit être développé, donc continué, et sur la base de cet initiateur génial. Je crois que votre action se situe un peu dans ce domaine-là, dans la mesure aussi où vous essayez d'améliorer ou de changer le système. Et j'aimerais, quant à moi, dans un deuxième point, si vous me donnez encore 2-3 minutes...
Allez-y, puis après vous passez.
Signaler un choix que j'ai fait très tôt dans ma vie, suite à un concours de circonstances et à un immense privilège que j'ai eu, comme j'avais fait parler de moi, puis qu'on m'a mis en prison dans le mouvement écuménique des Églises, on m'a choisi ensuite dans une commission où se réunissaient des savants, et peut-être qu'on peut en mentionner une parmi ces savants, puisqu'il y a une ethnologue à côté de moi. Margaret Mead faisait partie de cette commission, une grande anthropologue des États-Unis. Et toutes les années, nous nous réunissions. Et en 1972, nous avons eu parmi nous un des auteurs du rapport du MIT au Club de Rome qui s'appelait « Limites de la croissance ». Et j'ai donc siégé avec ce Norvégien, Jürgen Randers, on est même devenus copains, et les trois autres, Denis et Donella Meadows et William Behrens, sont co-auteurs de cette étude fameuse, qui a été renvoyée à l'expéditeur par tous les puissants de l'époque, mais qui refait surface maintenant sous un autre nom, qui est celui de la décroissance. Mais j'aimerais encore signaler quand même que l'analyse du système, et là je rejoins Madame Wolf ou Steli Wolf, c'est que l'analyse montre bien que c'est les riches qui ont rendu le Sud pauvre. Deux auteurs, le Guyanais Walter Rodney, qui a écrit Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique en 1973 déjà. Il a par la suite été assassiné dans son pays d'origine, la Guyane, avec la collaboration de la CIA. Donc à 2 jours d'intervalle, hier il y avait l'inauguration de l'exposition consacrée à Mossadegh, au premier étage, un homme qui a aussi été victime d'un coup d'État fomenté par non seulement la CIA, mais aussi les multinationales du pétrole. Et je signale l'autre auteur, Vandana Shiva, qui a écrit « Le terrorisme alimentaire depuis son optique indienne, comment les multinationales affament le tiers-monde ». Alors, j'ai encore d'autres choses à dire sur la décroissance, mais je crois que j'ai utilisé mon temps, mais j'y reviens volontiers si vous me suscitez ou si vous suscitez des réponses à vos questions.
On a bien les différents regards, là. Peut-être une réaction dans la salle, et puis après on revient à la table. Oui, monsieur, et puis madame aussi. Alors, allez-y, prenez le micro.
Ah oui, voilà. Merci. En fait, moi d'abord, j'aimerais dire, peut-être pour un peu calmer les choses, que je suis pas mal d'accord avec vous, Théobus et puis Claudine Stali-Wolf. Mais par contre, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a plus à faire. Et puis, j'aimerais dire aussi que je me sens un peu touché, parce que c'est vrai que j'y pense et j'aimerais faire plus, et je pense que c'est le cas de beaucoup. Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Est-ce que c'est qu'aux jeunes de se battre et d'agir, ou alors c'est à tout le monde? Ça aussi rejoint ce que disait Théobus sur le fait que ce sont les riches qui ont rendu le tiers-monde pauvre, mais qui nourrit les riches, qui nourrit ces grandes et multinationales, c'est nous. Donc en fait, j'aimerais juste qu'on essaye de ne pas qu'on tente de ne pas se jeter la balle sur c'est ta faute, c'est la mienne, mais qu'on est tous dans le même bateau. Dans le même bateau, et que c'est à nous tous de se battre, et puis pas qu'aux jeunes. Voilà.
Je pourrais... Vous voulez ajouter quelque chose ?
Ouais, moi j'ai bien envie, mais j'avais juste envie de... juste envie de dire, ben, en tout cas pour l'alternative étudiante durable, ben, c'est vrai que c'est difficile de comprendre un peu ce qu'elle fait des fois, parce qu'on se dit, elle lutte contre le gaspillage, mais après, donc, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus de gaspillage ? Mais j'ai l'impression des fois que ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'est une association qui permet de réunir des personnes de tendances diverses qui ont pas tout le temps les mêmes avis, mais qui peuvent ensemble faire des actions. Et puis ces actions, ça peut être aller ensemble à des manifs, créer d'autres associations, aider des personnes qui sont dans le besoin. Il y a plusieurs actions possibles, et la gratuité, elle permet vraiment de réunir les gens. C'est vraiment fou, mais quand on distribue des choses gratuitement, beaucoup de gens viennent, demandent, et c'est une porte ouverte qui est intéressante. C'est un moyen d'action, une forme d'action sociale qui est intéressante. Surtout que nous, justement, on n'a pas le même environnement que vous aviez. Nous, on a vraiment un environnement où il y a moins de personnes qui se bougent. C'est plus difficile de faire bouger les choses. Et c'est une impression en tout cas, et voilà. Et surtout, ouais, j'ai l'impression que une des différences, c'est que actuellement, on a vraiment un certain confort, comme vous le dites bien, en tout cas en Suisse, et que les personnes qui souffrent, comme vous l'avez aussi dit, ils sont plutôt dans d'autres pays, dans les pays du tiers monde. Et comment se faire rencontre, comment permettre aux personnes qui sont dans ce confort que leur action ait une répercussion, et justement qu'ils ne soient plus des consommateurs tout simples, mais qu'ils se rendent compte de leur acte, et notamment en voyant que des choses sont jetées, c'est tout simple, mais après on va sur d'autres, il y a d'autres palettes d'actions, des fois, Dimitri le prouve juste par sa présence, il y a des fois des alliances aussi avec des partis politiques qui ne sont pas unanimes dans l'association, mais il y a des alliances interpersonnelles. Ça permet de créer un certain mouvement dans une ville.
Voilà. Donc je crois que on peut déjà démarrer un peu la discussion. Vous aviez levé la main en premier. Vous vouliez rajouter encore quelque chose. Et puis après, on revient sur la table.
Je voulais peut-être juste apporter une petite précision par rapport à la permaculture. Parce que je suis extrêmement sympathisante aussi du mouvement permacole, bien qu'étant principalement membre actif de l'AED, et je pense que au niveau de la permaculture, ce qui a peut-être mal été compris par le public profane présent ce soir, c'est que la permaculture, mais Oscar l'a très bien expliqué, vise vraiment en fait à atteindre une certaine cohérence pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que tous les éléments d'un système, donc un système pas uniquement agricole, un système qui est composé d'éléments disparates, c'est des représentations, c'est des êtres humains, et c'est aussi des éléments naturels, que ce système-là soit cohérent. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de mettre des pesticides, on va prendre du poireau avec des fraises, plutôt que de booster le poireau tout seul. Et on va faire la même chose en fait, avec des humains pour essayer de limiter le gaspillage qui est donné, qui est créé en fait par ces excusez-moi, je me suis perdue. Mais ouais, bref, limiter ce gaspillage qui est créé par les multinationales, qui est créé par des systèmes qui ne sont pas résilients. Nous, on va essayer d'atteindre cette résilience, mais pas seulement au niveau agricole, mais aussi au niveau humain. Et je crois qu'on cherche vraiment tous cette cohérence, et ça m'a touchée, en fait, lorsque Mme Claudine Stalivolf a parlé de colmatage de brèche et a parlé d'avoir une vision un petit peu élargie. Et je suis désolée, c'est pour ça que je perds un peu mes mots. Parce que... je pense qu'on réfléchit justement extrêmement loin, on essaye d'aller le plus loin possible et on se heurte à des murs parce qu'on se dit, bon, j'ai envie d'être cohérent, alors je vais aller acheter commerce équitable, ah mais tiens, il y a 3 tonnes de plastique, ah mais tiens, il y a ça, ah mais tiens, il y a ci. Et puis, en fait, à côté, il y a des choses qui sont invendues et qui sont vouées à être jetées. Comment, moi, trouver ma cohérence au milieu d'un système où tout est séparé, en fait? Et je pense qu'on essaye d'allier toutes ces choses-là. C'est juste ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est clair.
D'accord, donc on a beaucoup de pistes de réflexion là qui sont déjà jetées. Et puis on va revenir un petit moment sur la table. Vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc Mme Stalivolf disait il faut qu'ils aillent plus loin. Alors ils vont plus loin. Comment est-ce que vous élargissez le mouvement qui voilà, mais d'abord peut-être Oscar Morand.
Je vais rebondir sur plusieurs points suite à ce que tu as dit, Alexandra. Il y a un principe de permaculture qui dit intégrer plutôt que de séparer. Donc c'est dans ce but d'avoir une vision la plus holistique possible et de voir que tout est lié. Quand je vous entends, Claudine, j'entends beaucoup la lutte qu'il y avait à l'époque, en 1968, d'aller mettre des affiches qui ne s'enlèvent pas sur les murs, d'aller bloquer la porte. Pour moi, je ne penserai jamais à faire ça, en fait. Et au Gramu, on a vraiment une volonté de s'intégrer dans les choses déjà mises en place plutôt que d'être séparés, puis d'être dans la confrontation. Vous parliez d'adresser les causes. Et vous avez utilisé le mot « pansement ». Moi, je vais quand même juste témoigner de ce que j'ai pu vivre. Je suis parti voyager pendant 2 ans. J'ai vécu 2 ans en tente avec très peu d'argent. J'ai passé 2 ans à me nourrir presque exclusivement de la nourriture que je faisais pousser, d'animaux que je tuais moi-même, de boire l'eau des rivières. J'ai vécu ce mode de vie et j'ai décidé de revenir à l'université. Puis on est arrivé avec le Gramu, avec nos projets. Puis au fond de moi, ouais, j'ai souvent ce sentiment que c'est simplement un pansement et qu'on n'adresse pas forcément la cause première qui est, selon moi, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est soi-même. Et finalement, il n'y a que soi-même qu'on peut changer. Mais le pansement est tout aussi nécessaire que soigner la cause. Quand on a une maladie, c'est important de la guérir, de mettre un pansement, tout autant que d'en trouver la cause et de transformer ça. Voilà.
Est-ce que... Madame Katseflis... Ah oui, alors...
Je réponds volontiers. D'abord, je suis là pour faire un tout petit peu de provocation, donc je suis très contente que ça marche. J'ai jamais imaginé que seuls les jeunes étaient responsables de quelque chose. On est tous responsables, c'est vrai, et on n'a pas tous la même connaissance ni le même regard, mais si on veut changer, vraiment, le monde dans lequel on vit, on devra le faire ensemble, c'est certain. Donc je ne me sens absolument pas à l'abri de mes propres critiques. Ce que je ressens, je le ressens aussi quand vous prenez la parole dans un deuxième tour, c'est que j'ai le sentiment, mais peut-être je me trompe, que vous n'entrez pas dans le problème par le bon bout. Tout ce que vous dites est juste sur le gaspillage, sur la manière dont on a des paradoxes où il y a des gens qui ont faim, mais on jette, etc. Il y a quelque chose d'opaque dans le système dans lequel on vit. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de valeurs qui me dépassent. Et dans votre discours, souvent, vous donnez l'impression de penser vous-même quelque chose et comme moi, je le pense, c'est une petite part de la vérité. C'est des valeurs qui sont, comment dire, elles sont situées socialement. Je pense que ça ne vous nuirait pas d'essayer d'admettre cette idée que peut-être vous pensez certaines choses parce que vous appartenez à une proposition de lecture du monde qui vous a été apportée. Alors, elle a du bon, hein. Moi, c'est aussi la mienne à certains égards. Mais la dépasser, ça ne peut pas nuire. Les pauvres ne sont pas... à l'extérieur de la Suisse. Il y a des tas de pauvres en Suisse. Et c'est pour ça que certains partis qui s'appuient sur ça, sur cette réalité, font un tabac. Donc, ôtez-vous de l'idée que les pauvres sont poliment hors de nos frontières. Ils sont ici. On a dans nos pays toute une catégorie de personnes qui sont des habitants sans droit. On n'en parle jamais. Eux, ils ont, non seulement ils n'ont pas de sous, mais ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de droit, et ils n'ont que des devoirs. Ils bossent, ils payent des impôts, mais ils n'existent pas. On a des législations qui ont été modifiées d'année en année par le parti auquel je faisais allusion tout à l'heure et ratifiées par le peuple suisse qui ont compliqué encore la situation des requérants d'asile chez nous, qui sont des gens qui viennent de beaucoup plus loin maintenant. Donc on ne leur donne aucune chance de s'intégrer et on se donne à nous-mêmes aucune chance d'apprécier ce qu'ils nous apportent. Donc on a une société qui est disloquée. Sur le plan de la production, de la productivité, on produit de plus en plus de richesses avec une plus grande efficacité, mais cette richesse, elle n'est pas partagée. Et donc, dans les personnes qui jettent, il y a toute une sorte de personnes qui ressentent ça comme une richesse. J'ai trop, donc je jette. Si la richesse était vraiment partagée et que tout le monde pouvait en bénéficier, le partage se ferait très différemment et toutes ces personnes auxquelles vous vous adressez en leur disant « ça va pas, la planète va crever », elles auraient une meilleure oreille. Donc moi, je trouve super ce café scientifique parce que j'ai appris de vous quelque chose et je pense aussi qu'il faut faire un effort perso et qu'il faut changer son mode de vie. J'ai moi-même fait des lessives sans phosphate pour mes enfants. Quand j'avais séché leurs habits, ils tenaient debout tout seuls. Mais je trouvais ça bien, quoi, parce que c'était une manière de faire un geste. Faire un geste, c'est bien, mais ça ne nous suffira pas. Et moi aussi, je veux la sauver, la planète. Mais je veux poser des concepts comme l'égalité de traitement, le partage des richesses, et puis le sens de la croissance, comme a dit tout à l'heure Théobus. Pourquoi ça grossit ? Si ça grossit, si on produit, mais qu'on ne partage pas, à quoi ça sert ?
Alors, Aline Katseflis, je vous voyais hocher la tête. Alors, peut-être une réaction de votre part ?
Sur plusieurs points, mais principalement sur les derniers commentaires. Une remarque générale où je ne vais pas répondre, ou ce n'est pas une question, mais c'est juste une remarque. J'ai l'impression dans tous nos discours qu'on a ce soir, il y a les riches, pollueurs, consommateurs, etc., etc., et les pauvres du Sud qui ont besoin de se nourrir, machin. Et je pense qu'on oublie aussi que je pense, je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais j'imagine que ce n'est pas forcément parce qu'on est pauvre qu'on ne va pas gaspiller. Et c'est juste un mode de consommation. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va exploiter non plus. Des fois, on est riche parce qu'on vient d'une famille riche et qu'on est dans un certain conception sociale. Et du coup, voilà, c'est juste une remarque de faire aussi attention de ne pas diviser blanc et noir. Le monde serait plus simple comme ça. Dans la même idée, tu parlais, Claudine, de... Oui, alors c'est beau, c'est bien, les pansements, mais ça ne résout pas le problème, il faut aller à la source. Mais le problème est tellement multifactoriel que la source, ça serait tellement bien de pouvoir appuyer sur un bouton si on le trouve et en dire stop. Mais c'est un peu tout ce qu'on évoque ce soir. C'est aussi un mode de production, c'est aussi des besoins des gens ou de ce qu'ils veulent par rapport à la consommation. Et je pense que ce type d'actions qui sont alors, ok, sûrement pas très grandes, qui ont peut-être un petit impact, mais qui sont principalement sur les jeunes et, désolé, mais c'est nous, la prochaine génération. C'est, si on arrive un peu à changer ou à sensibiliser la plupart des 20-35 ans sur ce problème-là, ça pourra peut-être de voir, ah, c'est super ces carottes que vous avez trouvées dans la poubelle, elles sont gratuites, elles sont nickel, et en plus elles viennent du maraîcher de Kertsers ou de la région, bah, je ne vais plus aller à la COP, je vais peut-être aller au marché, puis je vais peut-être demander au maraîcher qui est en bas de chez moi s'il a des trucs à acheter, enfin... C'est dans cette idée-là qu'on essaie de faire les choses, et c'est pas, et je permets de faire une remarque sur le titre de votre soirée, que je trouve vraiment tendancieux, voire, mais j'utiliserai pas ce mot-là, parce qu'on est enregistré, mais gaspiller pour me partager, non, c'est pas ça du tout l'idée. Ouais, ou partager juste pour partager et pas gaspiller du tout. C'est le but. On n'attend pas, voilà. Alors, et donc oui, alors pour revenir sur la source, voilà, c'est multifactoriel et je pense que de commencer sur la récup de nourriture, après sur peut-être le mode de production, le mode de distribution aussi. Et ensuite, ben, sur l'évolution de nos activités, ça s'est après transposé sur le vélo. Ben, c'est aussi un mode de déplacement, une conception des énergies, etc. Ça, les repair cafés, c'est aussi énormément de social dans ces repair cafés. Il y en a qui viennent même pas pour réparer des trucs, mais juste pour rencontrer ses voisins. Il y a aussi cette idée-là de « Ah, ben ma machine d'il y a 40 ans, ben, en deux secondes, j'arrive à la réparer et c'est génial et je vais peut-être pas racheter une Nespresso, etc. » Donc voilà, ça, je pense que tous ces petits pansements, eh ben, ça va faire un gros bandage et peut-être qu'on arrivera à finir.
Alors, oui, Monsieur Bus, alors rapidement.
J'aimerais aussi réagir ou rebondir à ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas au fait qu'on peut seulement se changer soi-même. C'est juste, et on l'a beaucoup répété, mais il faut un petit plus. Et alors là, comme j'ai fait partie du mouvement alternatif, un autre monde est possible, que j'ai participé à plusieurs des sommets mondiaux et européens. Je peux dire qu'il y a des associations qui sont d'une puissance absolument remarquable. J'aimerais en mentionner juste deux, celle de l'Inde qui s'appelle Gupta Panishad et qui fait des marches auxquelles participent plus d'un million de personnes qui vont jusqu'à la Nouvelle-Delhi et qui changent les lois véritablement avec la pression qu'ils exercent. Et en Amérique latine est née Via Campesina, qui est un nouveau mode d'agriculture. Et puisque j'étais aussi dans l'Inde profonde, je peux vous dire que les paysans disaient « La révolution verte a échoué. Rendez-nous nos semences d'origine. »
Et la révolution verte, c'était avec les multinationales, c'est
exactement.
Ça
exactement. Alors, voilà quelques occasions de rebondir. Et puis, j'aimerais ajouter que tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, j'aimerais quand même mentionner, il y a des scientifiques parmi vous, que ceux qui ont développé la décroissance, qui n'est jamais une décroissance linéaire, mais une décroissance sélective, il est bien évident que nous, Suisses, nous n'avons pas besoin de croître encore. Même si tous les bulletins économiques, moi, je trouve qu'on nous serine avec ça, de nouveau, croissance, bénéfices, etc., ça, c'est aller directement dans le mur, vous le savez comme moi. Donc, c'est un système à changer. Alors, les théoriciens, c'est Nicolas Georgescu-Reugen, un Roumain qui avait émigré aux États-Unis. Et ensuite, il a travaillé sur la théorie de l'entropie de Sadi Carnot. Si vous allez voir Sadi Carnot sur n'importe quel moteur de recherche, il y a plusieurs Sadi Carnot, donc ce n'est pas celui qui était président de la République, mais le physicien qui travaille sur l'entropie. Je peux vous donner tout à l'heure une définition de l'entropie, parce que la croissance est mortifère à cause du fait qu'on n'a pas tenu compte de l'entropie. Bref, ensuite, deux profs de l'ancien IUED, Institut universitaire d'études du développement, qui s'est maintenant transformé en IHEID, je dois regarder parce que moi j'avais l'habitude de dire l'autre sigle, Institut des hautes études internationales et du développement, j'ai nommé Jacques Grinewald et Ivo Rens, qui ont eu le mérite de vulgariser la pensée de Georgescu-Reugen et qui sont des grands des grandes références intellectuelles et pratiques de cette orientation. Si j'ai encore une fois la parole à la fin, je garde une mauvaise
citation. D'accord, on va peut-être repasser dans la salle parce qu'il y avait une question là.
Je voulais juste ajouter quelque chose à Madame Claudine Stelly-Volt à propos de 68, parce que 68, j'étais encore à Varsovie, et puis il y avait les grèves de... Chez nous, c'était pas mois de mai, c'était mois de mars. Et il y avait la grève à Polytechnique, et je vous jure que occupation à Polytechnique, on n'avait pas beaucoup à manger. À propos de partage, il y avait les foules de gens qui venaient, surtout les mamans, même avec les poussettes, pour porter en cachette la nourriture aux étudiants. C'est ça. Et là, l'autre chose, bon, quand je suis venue en Suisse il y a 40 ans, j'étais étonnée des quantités de nourriture qu'il y a à 5 heures samedi. Soir, il y a encore tout plein de choses. Moi, j'ai dit, mais qui va manger tout ça? Parce que moi, j'ai encore le premier self-service, premier magasin où on a dû faire la queue. C'était 65, peut-être 66. Et on a fait la queue pour les paniers. Et après, on arrivait, il y avait juste une grande conteneur. Il y avait plein de pots de mayonnaise. Je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours mayonnaise. Et puis, il y avait un immense panier avec 3-4 paquets de jambon sous vide. Puis c'est tout. Et un peu de pain, il disparaissait tout de suite. Donc, c'est ça. Et puis, moi, je pense qu'on parle tout de gaspillage, de partage. Oui, justement, moi, j'ai vu ce titre, mais maintenant, quand je réfléchis, c'est vraiment, il devait être peut-être plus compréhensif pour certaines personnes, partager pour ne pas gaspiller. Et encore une chose, maintenant, on fait action de l'autre côté d'Europe, d'Italie. On parle maintenant chez nous qu'il faut manger les asticots ou les, je sais pas, des verres. Je vais vous dire que là-bas en Italie, il y a 50 ans, ils n'avaient pas de frigo. Les fromages, au bout de 2-3 jours, ils marchaient tout seuls. Ils les mangeaient, ils grattaient un peu, mais le reste... Et puis personne qui était malade. Maintenant, aussi gaspillage de tout. Bon, on faisait du lait, on avait dans les verres. Hein. On mettait derrière la porte. Mais après, les gens mal éduqués, vilains, ils se faisaient les drôles de choses. Donc, c'est mieux fermer dans le plastique. Mais c'est de nouveau plastique, c'est de nouveau gaspillage, c'est les déchets. Voilà. Donc, on a trop, et puis emballage, je pense, c'est ça aussi, c'est gaspillage. Et d'énergie pour produire, emballage, après on les jette. Pourquoi 4 pommes, ils doivent être emballées dans les cartons, les plastiques couverts, etc. Moi, je pense que c'est pas... Maintenant, c'est trop tard, peut-être, pour supprimer les sacs en plastique, parce qu'on a tellement l'habitude, moi-même, je l'utilise aussi, mais je ne les jette pas dans l'océan, parce qu'on n'a pas ici.
On a le lac. Mais rapidement, peut-être par rapport à l'aspect, donc, au-delà des produits eux-mêmes, les emballages, est-ce que là, vous avez des actions là contre peut-être une réaction sur cet aspect-là.
Pourquoi emballer une courgette, elle a déjà un emballage. Pourquoi emballer des pommes? Elles ont déjà. Il y a la peau sur la plupart des choses. Moi, je travaille au marché de Neuchâtel. J'ai des clients qui viennent chaque semaine avec les mêmes sacs plastiques nettoyés, pliés, rangés. J'ai même un client qui vient avec ses Tupperware que je pèse sur la balance puis qui vient mettre. Je pense que toute forme d'emballage est juste inutile.
Alors sinon, il y avait monsieur ici, je prends les questions, j'essaye du moins dans l'ordre.
Voilà. Merci. Daniel Gross, je voudrais parler un tout petit peu de ce que je dirais peut-être les valeurs, vous trouver un meilleur mot, de ceux qui freinent le gaspillage et les valeurs de ceux qui font marcher les moteurs du gaspillage. Alors, comme on a parlé beaucoup des freins, il y a beaucoup d'illustrations humoristiques, très sérieux, tout, je voudrais prendre un peu l'image naïve, mais quand même, que je vois autour de moi aussi, hein, des moteurs du gaspillage. Je donne quelques freins, c'est normal, j'ai besoin d'une 4x4. Je m'arrête là. C'est normal qu'on a le frigo plein. Oui, il faut jeter parfois de temps à autre. Hein. Oui, c'est normal, il nous faut 120 mètres carrés pour vivre. Il faut, pour telle et telle raison, c'est normal, je vais 3 fois par année en avion, faire un voyage ici à Bali, etc., etc. Alors, si on pose la question, est-ce que vous êtes riche ? Non, je ne suis pas riche. Et puis, il n'est pas riche, ou elle n'est pas riche, ou ils ne sont pas riches. C'est de la bonne frange moyenne supérieure, dont une partie pense, comme vous direz qu'on devrait penser, qu'il y a des valeurs équilibrées, et puis d'autres qui n'ont pas ces valeurs équilibrées, qui sont tout à fait dans ce système, acheter, peut-être consommer, et puis jeter, ou bien simplement acheter et jeter directement, c'est encore plus élégant. Acheter, mettre dans la petite chambre, parce qu'on n'a pas besoin maintenant, des choses permanentes, et puis après galetin, et puis après jeter, sans jamais utiliser une machine à cuisine, par exemple. Voilà, alors, avec cette, j'ai simplement voulu mettre un peu le projecteur, parce que peut-être, si on pense à ces valeurs, et qu'on pourrait rendre moins formidable cette image que je veux donner de celui qui gaspille, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, c'est pas tellement formidable s'il gaspille, maintenant, il peut encore se dire c'est formidable, parce qu'il trouve des gens autour de lui, qui trouve ça formidable aussi. Voilà, alors, point de réflexion. Merci.
Merci. Est-ce que vous avez des réactions ? Oui.
Petite réaction, justement, vu qu'on est au sein de l'université et qu'on parle de ce gaspillage, qu'on parlait des emballages aussi. Petite suggestion pour caféine, vous pouvez prendre des gobelets qui se lavent. L'université en a avec les logos.
Vous allez faire la vaisselle après, d'accord.
Ah ben, il faut savoir ce qu'on veut, alors.
Oui, mais l'eau aussi, hein, écoute. Non, mais c'est vrai qu'après...
Voilà. Il y a la vaisselle à côté.
Oui, il y a la vaisselle qu'on peut jeter, hein, qui est recyclable. C'est vrai qu'on pourrait avoir de la vaisselle recyclable.
Non, mais...
Oui, bien sûr.
Même si c'est recyclable, recyclé, ça finit à la déchetterie. Bref, voilà. Hein. Autre suggestion, vu qu'on est aussi dans le sein de l'université, qu'on parle de l'emballage et qu'on essaie de changer les mentalités de notre jeunesse, je ne sais pas si vous avez fait un tour dans nos cafétérias, mais tout est sous plastique et tout finit à la poubelle. Et ça pourrait être aussi un moyen de pression de la part des étudiants ou des collaborateurs de l'université de ne pas acheter ces choses-là. Ou d'arriver avec son Tupperware, comme au marché chez Oscar, et demander, moi je veux ça, mais je ne veux pas tout l'emballage qui coûte 2 francs sur ce que vous payez dans votre salade. Alors que la salade, à la production, ça coûte 1 franc 50.
Et puis toutes les imprimantes ont été changées il y a déjà 2 ans.
Après, ouais, c'est sûr. Ouais.
Parce que
c'était,
on ne sait pas pourquoi. Ouais.
Donc, merci l'université de faire des belles conférences et d'avoir un service de développement durable, mais d'aller jusqu'au bout, du coup, des choses. Et je pense que les jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a tout âge à l'université, sont prêts à faire ce pas-là, et ça ne les dérange pas, j'espère, de faire ces actions-là, qui sont petites. Et j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Voilà, merci.
On y reviendra certainement après. Oscar Morin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Vous avez le micro en main. Allez-y.
Ouais, merci. Merci Aline, j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait repenser ce qu'on disait au niveau de la source. Puis oui, monsieur Théobus, changer soi-même, puis aussi faire des actions qui sont plus grandes que ça. Mais finalement, il y a un réel besoin de cohérence. Moi, c'est très difficile pour moi, parce que pendant 2 ans, j'ai vraiment eu un impact écologique, mais tellement petit pour moi, j'avais trouvé mon petit paradis, mode de vie parfait, j'étais dans une communauté de hippies en Nouvelle-Zélande, génial, vraiment juste magique. Puis je vois que c'est possible, j'ai vu, c'est possible de vivre vraiment en harmonie avec la nature, avec un impact, mais j'allais dire minimum, mais même pas un impact positif. Hein. Puis ça, ça demande le changement, de remettre du mouvement dans notre vie, puis de changer. Puis c'est pour ça que j'ai envie de dire que ouais, c'est notre faute, c'est votre faute, c'est ta faute, puis c'est aussi ma faute, puisque maintenant j'ai honte de mon petit gobelet comme ça, mais c'est vrai. Et je me sens stupide d'avoir pris ce café, hein, où j'aurais pu demander un verre, puis finalement, il n'y a que soi, quoi. Moi, il n'y a que moi que j'arrive réellement à changer, puis je vois que c'est aussi en mettant mon énergie sur mon être que ben que je dépense le moins d'énergie, parce que j'ai voulu faire changer les choses à grande échelle, quoi, dans des rêves pas possibles, mais je vois que j'ai perdu beaucoup d'énergie là-dedans, en fait. Puis finalement, j'essaye de me changer moi-même.
Oui, Théobus. Alors, juste rapidement, Théobus, et puis après vous, madame. Ah ben, alors...
Je me suis déjà exprimée sur cette idée de changer soi-même. C'est vrai, vous changez soi-même, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais ça ne va pas suffire. Donc, on peut être très content de soi, mais ça ne change rien. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit M. Gross sur les comportements de gaspillants, qui sont en fait des comportements qui sont comme protégés à l'intérieur de groupes sociaux qui ont les mêmes valeurs. Lui, il utilise le terme « valeur ». Juste maintenant, je tenterai le terme idéologie. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer de mœurs. Alors, faire des démonstrations, montrer qu'on peut faire autrement, c'est très important. Mais on ne peut pas obtenir un changement sans se poser la question d'un combat. Ceux qui font la pub, ceux qui ont besoin d'une 4x4, Quand j'avais aménagé une fois dans un appartement, on m'avait dit « les gens veulent des cheminées de salon ». J'étais un genre, je ne voulais aucune espèce de cheminée de salon, mais pendant 20 ans, on a fabriqué des appartements avec des cheminées de salon pour pouvoir vendre des appartements où les louer plus cher à des gens qui n'avaient rien demandé. Et on nous fabrique des pensées. Il y a un travail à faire pour savoir comment on se situe par rapport à ça. Si vous ne faites pas ce travail-là, le monde ne va pas changer tout seul par amabilité parce que vous êtes gentil.
Oui, mais justement, je crois que la preuve, là, ils sont là. Alors,
ce travail-là, celui que je viens de décrire, vous ne le faites pas. Vous en faites un autre. Un autre qui est très bien, mais ce n'est pas
madame,
celui-là.
Madame, je t'ai dit. Je vais... Peut-être juste, monsieur, il ne s'est pas encore exprimé, voilà.
Merci de me donner la parole. Donc, je vais essayer de faire une synthèse et de vous rassurer un petit peu. Je m'appelle Dimitri Barat et puis je suis conseiller général dans la ville de Neuchâtel. Et je suis un membre très actif, enfin, j'espère être un membre en tout cas actif et puis à la base fondateur de l'Alternative étudiante durable. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Oscar et on travaille quand même ensemble. Changer le monde, c'est pas un rêve impossible. C'est peut-être que maintenant on vit dans un cauchemar idéologique et puis qu'on doit juste moment trouver les moyens d'interroger cette normalité que Monsieur Gross nous a montré par quelques petits exemples. Et puis on le fait en pratique. Et puis on n'a pas de grands partis politiques qui existent comme vous. Maintenant, un décolleteur de 25 ans peut s'acheter sa BMW en leasing. Maintenant, un universitaire à 30 ans, c'est toujours un ancien étudiant. Les précarités ont un peu changé, il y a plein de choses très différentes. Et puis nous, au travers de l'AED, qui est un espace aussi qui est politisé, où on n'est pas tous directement dans les mêmes orientations, mais on fait un travail politique, et puis voler des poubelles, c'est quelque chose d'extrêmement violent aujourd'hui. On interroge radicalement la propriété en faisant ça. On a des amis qui se sont retrouvés braqués par des policiers en train de voler un sac poubelle. Et c'est 400 francs d'amende, c'est une nuit au poste et c'est tout ça. On arrive dans un degré de répression qui est peut-être différent, en tout cas, qui impressionne beaucoup de monde. Et puis, on remet donc en question le pouvoir par le vol. On remet l'argent en question par la gratuité. On a toute une série d'actions politiques qui doit, j'espère, un petit peu vous rassurer. Et puis, on essaye de trouver quelques brèches dans le capitalisme. On n'a pas parlé de capitalisme. Oscar, par son action idéaliste, donc dans l'idée idéaliste, c'est-à-dire qui est basée sur l'idée de soi-même, va changer le monde en me changeant moi-même. Je pense que c'est... Moi, je suis matérialiste, je suis marxiste. Je n'aurais pas cette approche-là. Mais dans cette idée de créer des brèches, de trouver des brèches dans le capitalisme, de s'y insérer, puis de montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut interroger la réalité, on fait un immense travail politique qu'on est obligé de faire depuis le ras des pâquerettes maintenant. Vous venez d'une époque que j'aurais bien voulu vivre et où j'aurais vécu avec beaucoup de désillusions parce qu'on a raté la révolution, mais on a une autre réalité sociale maintenant et c'est très difficile de trouver une action politique concrète, pratique et cohérente. Et puis on le fait. Bravo à l'AED, on le fait à l'AED, on le fait à Neuchâtel, dans tous ces réseaux d'associations qui travaillent avec l'AED, pour les migrants aussi, pour plein d'autres choses dont je n'ai pas le temps de parler. Voilà, je vous remercie.
Alors, je crois qu'il y a une réaction de Théobus. Réaction de Théobus, puis après...
Alors, j'aimerais en rajouter une couche. Quand vous critiquez ce café, c'est bien parce que vous critiquez le contenant, mais le contenu... C'est quand même la semeuse qui est un des producteurs du commerce équitable, et je tiens à le souligner. Et je vous demande dans la salle combien parmi vous sont disposés à renoncer au Nescafé et au Nespresso. Magnifique. Mais ce n'est pas encore la totalité. Il y a encore du travail à faire parce que les multinationales comme Nestlé, Syngenta, Monsanto et Unilever sont parmi les grands responsables de l'état de choses actuel. Il faut aussi viser cela. Moi, je vous avais dit que j'avais encore une citation à donner en conclusion. Je signale que sur la table où il y a une seule étudiante qui est là, il y a quelques pistes pour poursuivre la réflexion sur la décroissance. Et là, derrière Igor, il y a des livres que vous pouvez feuilleter, non pas emporter, sur la décroissance avec notre ami Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, qui pour nous est une référence. Alors, je vous lis cette citation qui n'est pas très longue, rassurez-vous, qui est de Noam Chomsky, qui a repris un texte de Bertolt Brecht. Et peut-être que Chomsky dit quelque chose pour d'autres que les étudiants en lettres et en linguistique. Et il disait ceci, « Si tu vas dans la rue pour manifester et tu rentres à la maison, c'est déjà quelque chose. Si tu manifestes toute ta vie, tu es devenu indispensable. Mais ceux qui sont aux commandes peuvent vivre avec. Par contre, ce qu'ils ne supportent pas, c'est une pression constante. » Croissante. Ce sont des organisations comme le Forum social mondial, Gupta Panichad en Inde, comme je l'ai mentionné, Via Campesina, Unitaire en Suisse, qui renouvellent leurs méthodes et prennent de nouvelles initiatives et qui tirent, ça c'est le dernier point important ajouté par Noam Chomsky, qui tirent les leçons de leurs erreurs passées et se surpassent la prochaine fois. Alors, à bon entendeur, salut.
Bon, on va pas finir là, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Oui, madame, rapidement.
J'espère que je serai plus claire cette fois, mais déjà pour rebondir sur votre citation, merci. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Et puis, à l'époque, en mai 68, je pense qu'il faut aussi recontextualiser socialement. Déjà, l'AED, comme l'a précisé Aline tout à l'heure, et ça a peut-être été un peu oublié, est née au sein quand même du département d'ethnologie. Donc les représentations sociales, le regard occidentalo-centré, c'est des notions en fait, qu'on étudie au quotidien. Et je pense que c'est la discipline en elle-même, on n'est pas tous anthropologues, hein, mais qui, pour beaucoup d'entre nous, a contribué à nous aider en fait, à forger ce recul-là, à nous interroger. Et moi, si je peux prendre juste peut-être un exemple personnel, j'ai essayé, enfin toute ma vie, je me suis interrogée comment je peux faire pour être cohérente, comment je peux faire pour changer les choses, pour sauver la planète, si on veut prendre les grands mots. Et puis j'ai essayé en militant, j'ai essayé à des niveaux qui étaient plus politiques, peut-être comme le fait Dimitri, et j'ai réalisé que moi, ça ne me convenait pas. Et un jour, un militant que j'admire beaucoup m'a dit, et ça a été beaucoup plus clair dans ma tête, il m'a dit il y a trois niveaux d'action. Il y a le niveau individuel, il y a le niveau communautaire et il y a le niveau politique. Et puis il y a des gens qui agissent sur les trois niveaux. Et il y a des gens qui vont agir seulement sur un niveau et seulement sur deux niveaux. Et je pense que ce que vous avez vécu, nous, on n'est pas en train de l'occulter ou en train de... Voilà, on essaie juste d'aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, c'est peut-être que il n'y avait pas cette... on va dire qu'on n'était pas dans un contexte social qui était focalisé sur l'individu. La psychologie, les choses comme ça, c'est des disciplines qui sont relativement récentes. Et on essaye d'avoir un recul sur nos sociétés, mais aussi sur nous-mêmes, pour aller encore plus loin. Et j'ai entendu Monsieur Gross, par exemple, tout à l'heure, qui était beaucoup dans la dénonciation. Et puis, nous, enfin... Moi, personnellement, je l'ai été aussi, de dire « Ah oui, mais... » Puis du coup, ça nous frustre, ça nous met en colère, et puis on est dans la lutte. Et il y a beaucoup cette idée de lutte qui est revenue ce soir. Et voilà, juste pour conclure, moi, je suis personnellement convaincue qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans la lutte pour changer les choses. C'est cette idée de... Oui, on est une génération privilégiée, intellectuellement, matériellement, au niveau spatial aussi. On a toutes ces possibilités de faire des choses et on en a conscience. Et puis, du coup, je pense que... En tout cas, là, je parle en mon nom, en fait. Moi, ce que je me dis, c'est que, en tant que moi-même, ayant accès à tous ces privilèges, comment est-ce que je peux faire pour... En fait, au début, je les ai rejetés. En fait, pendant 4 ans, je les ai rejetés, et puis finalement, je me suis dit, mais non, ça sert à rien. Je vais me les réapproprier et les utiliser pour en faire quelque chose de constructif. Et du coup, peut-être que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à un certain niveau, c'est de parler à des gens qui ont le pouvoir de changer les choses, mais ils n'ont pas la conscience pour. Et avant, on essayait peut-être de convertir les gens... voilà, cette idée de lutte, de révolution, mais pour moi, il y a quelque chose de violent. C'est comme si on soumet des personnes à nos idées. Et là, on essaie de faire quelque chose qui est beaucoup plus lent. C'est un processus parce que les gens doivent s'approprier des idées qui ne leur appartiennent pas. Et malheureusement, ça se fait peut-être pas en 5 ans, ça se fait peut-être en 50 ans. Et moi, c'est ma vision complètement personnelle, mais j'espère que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a sûrement des gens dans cette salle qui ne sont pas d'accord avec moi. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, moi, Dimitri, ou peut-être Madame Claudine Stelly-Wolf, qui sont peut-être plus dans l'instantanéité de l'action, qui voudraient faire bouger tout de suite. Voilà, c'est des points de vue différents, mais en tout cas, on arrive à avancer quand même ensemble vers le même but.
D'accord, on a bien compris votre point de vue. Est-ce que vous avez une réaction, alors, par rapport à ça? Donc, d'avancer lentement, mais sûrement, hein, au fond, c'est ça, et faire l'effet boule de neige. Est-ce que... Ça pourrait être plutôt...
Oui, moi, je comprends bien ce point de vue. C'est bien de se chercher, puis d'essayer de se trouver, et puis d'être respectueux des autres, pour leur permettre d'avancer à leur rythme, avec leurs propres conditions de production. Parce que je suis l'idéologue ce soir. Mais en même temps, j'y crois pas. Et je ne sais pas parce que, c'est vrai, il y a 3 niveaux, comme vous l'avez décrit, on n'est pas obligé de tous être dans les 3 niveaux, etc. Mais on ne peut pas faire l'économie des 3 niveaux. D'accord. Et si on veut arriver à changer les choses, il y a des éléments qu'il va falloir construire. Il y a des formes critiques qu'il va falloir développer. On ne peut pas en faire l'économie. Ça ne suffit pas de se trouver soi-même et de pouvoir se situer dans ce qui nous entoure. Moi, c'est ça qui me fait un peu souci quand je vous entends. Pas tous, hein. Mais il y a certaines choses qui ont été dites ce soir qui évoquent pour moi cette espèce d'idée que on n'a pas forcément besoin d'être dans la lutte pour faire changer les choses. Ensuite, vous expliquez que vous êtes une génération privilégiée. Moi, je pense que ça manque de réflexivité, votre raisonnement. Je comprends bien. Moi, je suis venue ici, si on veut, pour voir ce que c'était qu'un café scientifique, déjà. Et puis, je n'ai pas amené toutes sortes de citations comme l'autre ancêtre, Théobius, qui a visiblement, lui, une, une position très construite dans un domaine précis, avec des références, et il a raison, parce que dans un domaine universitaire, c'est important de procéder comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut pas se battre sans lutter, parce que ceux qui sont en face, ils ont aussi une conception du monde. Et ils ont aussi des intérêts. Et qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt, toutes ces grandes boîtes qu'a cité Théo tout à l'heure ? Faire du profit. N'importe comment, n'importe quand, en racontant n'importe quoi aux gens. Et si on ne se solidifie pas, eh bien, on arrivera à avancer, peut-être. Mais trop lentement, la planète, elle est vraiment malade. Ça ne suffit pas de changer soi-même de mode de consommation ou de se sentir bien par rapport à ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Il faut se mettre ensemble, les jeunes et les vieux, pour faire changer ce monde. Il ne va pas changer tout seul. Vous vous rendez compte qu'il y a un millionnaire de plus par jour carrément dans ce canton. Il y a un problème. Il y a de plus en plus... pas seulement de gaspillage, mais de gens qui ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a des injustices de plus en plus.
Parce qu'on s'est fait littéralement molester lors de la manifestation contre le sommet sur les matières premières à Lausanne. Donc quand je parle de se battre sans lutter, ça ne veut pas dire rester passivement assis. Ça veut simplement dire réaliser que l'autre personne en face de nous n'a peut-être pas malheureusement en conscience réussi à intégrer des nouveaux concepts, parce qu'on va parler de schémas archaïques ancrés socialement, et là je ne veux pas utiliser un jargon que la plupart des gens ne comprendront pas, mais en fait moi c'est ça qui me fait bouillir parfois, c'est que j'ai enfin compris intellectuellement, mais pas encore malheureusement dans mes actions, parce que je suis encore très agressive la plupart du temps, mais j'ai compris en tout cas intellectuellement qu'on ne peut pas forcer les gens à changer trop, plus vite qu'ils ne le peuvent. Alors, les changements extérieurs, c'est toujours possible, mais malheureusement, ça ne tient pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans ce sens-là. Je me bats pour des changements extérieurs. Mais pour moi, me battre, ce n'est pas lutter. Ça veut dire que je me battrai pour que tu changes. Mais je ne vais pas te forcer, te torturer, te faire souffrir pour que tu changes. Je ne vais pas t'insulter parce que je l'ai fait par le passé et parce que ça n'a pas marché.
Mais vous avez raison. On ne peut pas obliger les gens à changer. Il faut qu'ils arrivent à le faire eux-mêmes. Et on n'a même pas la solution à leur proposer. Mais il faut réfléchir ensemble. Et il ne faut pas oublier certaines choses dans la manière d'analyser la situation dans laquelle on est. Moi, c'est ça que je dis. Je trouve qu'il manque des choses dans votre manière d'analyser ce qui vous entoure. Moi aussi, il m'en manque. Hein. Je pense pas que j'ai tout vécu. C'est pas la question. J'ai encore du chemin à faire et des choses à comprendre, heureusement, parce que c'est chouette. Mais moi, j'aimerais bien introduire ce petit grain de sable dans votre mécanique. Regardez peut-être un tout petit peu autrement, prenez un petit peu de recul et imaginez-vous d'où on vient pour savoir où vous voulez aller.
Alors, c'est une magnifique conclusion qu'on pourrait prolonger. Donc, il reste encore, disons, 3 minutes, 1 minute chacun pour les 3 personnes qui restent, en considérant que vous avez fait votre conclusion, Madame Stelly. Et donc, je me tourne vers les 3 autres intervenants. Voilà, Oscar Morand, une conclusion pour cette soirée.
C'est que je suis plus d'accord avec moi-même. C'est vrai, non, mais je réalise que c'est vrai, se changer soi-même, c'est pas suffisant. Et ça me rappelle la raison pour laquelle ben, je suis revenu de l'autre côté de la planète pour re-rentrer à l'université. Je me rends compte peut-être que je me suis loupé et qu'il faudrait un petit peu plus de lutte. En tout cas, je remercie pour toutes ces idées.
Aline Katseflis.
Je vous remercie pour ce café. Au-delà des grands discours et des grands questionnements qu'on a soulevés là, ces dernières minutes par rapport à se changer soi-même, la lutte, etc., des fois, c'est bien aussi de ne pas trop réfléchir. Et puis, si on ne sait pas, on peut aller, pas trop réfléchir, on s'entend, d'aller vers un groupe qui est mis en place, vers un syndicat, vers un groupe politique et réfléchir à plusieurs pour justement savoir. Et juste avant de passer le micro, l'AED vous a fait une petite récup avant la séance, donc vous avez du pain à ramener chez vous. Merci.
Alors, merci beaucoup à l'AED.
Merci pour le pain. Je pensais avoir donné ma conclusion avec cette citation de Noam Chomsky, mais puisqu'on me redonne la parole, je veux citer les plus pauvres. J'ai vécu 3 ans au Nicaragua et je travaillais vraiment au niveau des paysans, de ceux qui sont les désavantagés, les exploités de cette terre. Et à plusieurs reprises, grâce au cours que j'avais préparé avec leur collaboration, qui s'intitulait « Maintenir l'espérance dans un monde globalisé », il y en a qui me disaient « Ah, avec votre histoire de la colonisation et de la colonisation qui s'appelle autrement, maintenant c'est le néolibéralisme capitaliste, vous nous avez enfin fait comprendre pourquoi nous sommes pauvres. Ce n'est pas notre faute comme on a essayé de nous l'inculquer. » Donc, c'est à nous d'agir ici, dans les pays riches, d'aller dans les assemblées d'actionnaires, de poser des questions inconfortables, de faire partie d'associations, etc., etc., comme vous le faites déjà. Bravo et continuez.
Merci beaucoup. Alors, merci. Merci à nos 4 spécialistes ici qui sont venus nous parler ce soir et de nous expliquer tous ces points de vue. Nous avons partagé un bon moment. Il y a encore des choses qui sont encore à récupérer. Donc, servez-vous sur les tables. Mangez ces quelques sandwichs qui restent. Je voudrais encore vous attirer l'attention que sur ces mêmes tables, vous trouverez des dépliants du programme et des suppléments du programme du printemps culturel neuchâtelois qui met l'Iran à l'honneur. Au premier étage, il y a une exposition consacrée à l'un de nos anciens étudiants illustres, de la personne de Mossadegh. Et dans le cadre de ce printemps culturel, nous avons aussi le prochain café scientifique qui se tiendra ici, au sujet de l'islamophobie. Voilà, je vous donne donc rendez-vous le 22 avril. D'ici là, eh bien, bon printemps, bonne fin d'appétit et bonne soirée. Merci beaucoup et encore bravo à Roland Hamsler pour la technique, voilà, que je remercie pas assez souvent.
Pour une autre association étudiante dont plusieurs d'entre nous faisons partie, l'association pour un centre autogéré et populaire à Neuchâtel, qui organise la journée neuchâteloise pour la souveraineté alimentaire, qui est pile dans le thème qu'on a traité aujourd'hui. Donc le 22 mars, c'est un dimanche, de 10h à 19h dans l'ancien Scan, ça veut dire de l'autre côté de la route, là, faubourg de l'hôpital 65. Une journée avec Unitaire, Longomaille, les gens de la marche des femmes de la marche mondiale des femmes, et tout un tas d'intervenants qui viendront parler de la souveraineté alimentaire. Et les discos bocaux de l'AED, voilà, bien sûr.
Je triche juste un coup, il n'y a plus de micro, mais juste pour vous dire que les événements de mai 68 ont commencé à l'initiative d'un groupe d'étudiants de la Sorbonne qui s'appelait le groupement du 22 mars.